c'est RFI, il est 14h30 à Paris, midi et demi, temps universel.
Afrique Midi, Laurence Adou.
Afrique Midi, une heure en direct du studio 158 de la Maison de la Radio. Le temps, 26 degrés à Paris, belle journée d'été, même chose demain avant le retour de la pluie, jeudi. Afrique Midi, une heure tous les jours ensemble et tout de suite bien sûr, le journal. Madame, Monsieur, voici les titres de l'actualité de ce mardi et ce rapport accablant. Le Rwanda rend officiellement public aujourd'hui une enquête sur le rôle de la France avant, pendant et après le génocide de 1994. Je vous le disais, conclusion accablante, nous dira Catherine Nina dans un instant. Le procès de Jacob Zuma suspendu et ajourné au 12 septembre. Le chef du parti au pouvoir accusé de corruption joue son avenir politique. D'autant qu'il est le favori pour la présidentielle de 2009. On en reparle avec Lisèle Lau, journaliste et spécialiste de l'Afrique du Sud. Elle est l'invitée de l'actualité. Interview à suivre dans une vingtaine de minutes. L'Angola, la campagne pour les législatives, ça commence aujourd'hui. Ça faisait 16 ans que les gens attendaient ça. Tous les partis seront sur le même pied d'égalité à la radio comme à la télévision. Les épreuves du bac et du BPC reportées d'une semaine aux Comores en raison de la pénurie de carburant qui paralyse l'archipel, sans compter les enseignants qui menacent de faire grève. À suivre encore les sports à la une aujourd'hui, le championnat national de handball en ce moment au Congo-Brazzaville. Pour en savoir plus, Laura Martel dans un quart d'heure. Afrique Midi, seconde partie, 15h10, c'est écrit dans le journal, la revue de presse de André-Michel Essungu, 15h15, la vie en vrai, direction l'île de la Réunion pour Sakifo, un festival où vont se succéder des grands de la musique comme l'ivoirien Tikenja Fakoli, Kezia Jones, Bass Bass ou encore la jeune française Émilie Loiseau, sans oublier le groupe Lo Griot dont le chanteur sera notre invité. Afrique Midi, une heure d'info, nous sommes en direct, bienvenue, bonjour à tous. Voilà des mois et des mois que le Rwanda annonçait la publication prochaine du rapport de la commission chargée d'enquêter sur l'implication de l'État français dans le génocide de 94. Le rapport de 500 pages avait été remis au président Paul Kagame en novembre dernier. Eh bien, il va être officiellement rendu public. C'est une question de minutes maintenant. Il a été transmis au ministre rwandais de la Justice et on l'a dit, ce rapport est accablant. Catherine Nina, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pu vous procurer quelques éléments de ce rapport et d'après les conclusions, la France aurait participé aux initiatives les plus importantes de préparation du génocide et surtout, elle aurait participé à sa mise en exécution.
Oui, Laurent, la commission était chargée de rassembler, je cite, les preuves montrant l'implication de l'État français dans le génocide. C'est donc ce qu'elle a fait durant les 18 mois qu'ont duré ses travaux. Le rapport remis aujourd'hui au ministre de la Justice est donc un pavé de 500 pages qui analyse le rôle de la France avant, pendant et après le génocide. Alors d'après nos informations, pour la période de 1990 à 1993, le rapport dénonce premièrement une participation directe aux côtés de l'armée rwandaise au combat qui l'opposait alors à la rébellion du FPR. Les militaires français sont également accusés d'avoir participé à la formation des milices interahamwées, puis contribué à l'établissement des listes de Tutsis et participé à la ségrégation ethnique, notamment lors de contrôles d'identité sur les barrages. Des faits de viol et de mauvais traitements sont aussi avancés. En conclusion, la France savait qu'un génocide se préparait et elle a aidé le gouvernement d'Habyarimana à le mettre en œuvre. Plus grave encore sont les accusations sur l'implication directe de la France en 1994. Le rapport dénonce l'appui militaire des Français et les livraisons d'armes pendant le génocide, puis s'attache au rôle de l'opération turquoise. Selon le rapport, des militaires français auraient participé aux assassinats de Tutsis, notamment à Guy Kongoro, l'un des QG de l'opération militaro-humanitaire. Enfin, selon les Rwandais, la France aurait continué à appuyer les pontes du régime génocidaire en exil en RDC, avec entre autres de nouvelles livraisons d'armes. En conclusion, la commission recommande au gouvernement rwandais de porter plainte contre l'État français devant les instances judiciaires internationales, comprenez le TPIR.
Catherine Nina. Il nous faut maintenant parler de cet accord entre les gouvernements congolais et rwandais, accord formalisé en novembre dernier à Nairobi et qui prévoit le désarmement des FDLR, les rebelles hutu-rwandais, installés au Congo dans le nord et dans le sud Kivu. Eh bien, depuis 8 mois, le dossier est au point mort. Seules quelques dizaines de rebelles ont rendu les armes et encore, il ne s'agit que d'hommes issus d'une rébellion dissidente du Rassemblement pour l'Unité et la Démocratie. Aujourd'hui, une rencontre informelle doit réunir des officiers des FDLR, des représentants de la MONUC et des délégués du gouvernement congolais. Alors question, que peut-on en attendre ? Apparemment, Ghislaine Dupont, les chances d'avancer sont faibles.
Sur le terrain, la campagne de sensibilisation menée auprès des FOCA, la branche armée des FDLR, n'a pas encore donné de résultats. La communauté internationale, à travers les responsables de la MONUC, chargée du fameux DDR, désarmement, démobilisation et rapatriement, tente de convaincre certains officiers que l'intransigeance de leur direction politique les mène à l'impasse. Ignace Mourouana Chiaka, le président du mouvement qui vit en Allemagne, pose comme préalable l'ouverture d'un dialogue inter-rwandais. Dialogue dont Kigali ne veut pas entendre parler. Les officiers, parmi lesquels le commandant second des FOCA qui participent à la réunion, peuvent-ils dans ces conditions s'engager à désarmer quelques-uns de leurs hommes ? Les probabilités sont faibles. La présence des FDLR au Congo empoisonne tout le monde, en premier lieu les populations qui subissent leurs exactions. Elles pointent également l'incapacité des autorités congolaises à neutraliser militairement ces forces étrangères. À Kinshasa, certains responsables pensent qu'il faudrait en échange du désarmement, organiser une relocalisation des combattants et de leurs familles. Pas facile là non plus, les FDLR veulent rester au Kivu, où ils disposent de ressources. Exploitation illégale des mines, circuit de contrebande. Le règlement du problème des FDLR ressemble à la quadrature du cercle.
Nos dernières informations, au Tchad, c'est un rapport très attendu qui vient d'être officiellement rendu à la présidence. On apprend que la commission d'enquête sur les événements survenus au Tchad entre le 29 janvier et le 8 février, et leurs conséquences, vient de déposer ses conclusions au chef de l'État. Ce rapport avait été commandé par Idriss Déby et doit notamment permettre de savoir ce qui s'est passé et ce qui est arrivé surtout à l'opposant Ibni Oumar Mahamat Saleh, toujours porté disparu. La vie politique en Angola, l'Angola, où c'est aujourd'hui que démarre la campagne pour les législatives et ça va durer en tout 1 mois. Ça fait 16 ans que les électeurs attendaient ça. En 1992, le scrutin avait abouti à une recrudescence de la guerre civile. Alors concrètement, tous les partis politiques seront traités à égalité par les médias. En clair, chacun des mouvements pourra s'exprimer à la radio et à la télévision nationale. Le parti au pouvoir, pour ne parler que de lui, compte mettre en avant la paix et la réconciliation. Norberto dos Santos Kwata Kanawa, le porte-parole du MPLA.
Oui, les principaux thèmes sont la consolidation de la paix, la réconciliation nationale, la stabilisation politique en Angola pour continuer la reconstruction nationale que nous avons commencée après la guerre. Bon, et l'amélioration des conditions de vie des Angolais.
Alors justement, est-ce que votre parti, le MPLA, au pouvoir depuis 30 ans, n'a pas un handicap pour faire croire qu'il va changer la vie au quotidien des Angolais ?
Les Angolais savent bien que 1733 années de gouvernement, 27 années sont de la guerre. Mais après la paix, en 2002, nous avons démontré aux Angolais tout ce que nous pouvons faire. L'amélioration de vie de l'Angolais est là.
Depuis 2002, qu'est-ce qui a vraiment changé pour les Angolais, dont 70% vivent avec moins de 2 dollars par jour ?
Cet chiffre-là, c'est le chiffre de la communauté internationale. Mais quand vous venez ici à l'Angola, je sais que vous pouvez voir les améliorations que nous avons faites avec la vie des Angolais.
Le porte-parole du MPLA, l'Angola, où c'est donc aujourd'hui que commence la campagne pour les législatives, prévue pour se tenir le 5 septembre prochain. La politique encore, mais cette fois en Guinée, avec toute une série de soubresauts dans les hautes sphères du pouvoir, soubresauts et toutes sortes de coups de théâtre. C'est l'histoire invraisemblable arrivée au secrétaire général de la présidence. Premier épisode, Sam Mamadi Souma est limogé par le chef de l'État de son poste à la tête de la sécurité sociale. Épisode numéro 2, le voilà promu au titre de ministre d'État, apparemment par décret présidentiel. Troisième épisode, le voilà maintenant à la disposition du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique. En fait, l'épilogue tient en 3 mots, son retour en grâce, il le doit à un faux document. Le responsable de cette manœuvre se trouve être le directeur du protocole d'État. Du coup, il a été renvoyé pour faute lourde. Mokhtar Ba, vous êtes le correspondant de RFI à Conakry. On aurait presque envie de rire, mais ce ne serait pas très charitable.
C'est le comique dans la tristesse. La valse de décrets contradictoires continue au palais de la présidence. Et les Guinéens ne savent plus à quoi s'en tenir, tellement leur sommeil a été perturbé ces dernières 72 heures par une cascade d'actes contradictoires publiés au nom du chef de l'État. La dernière en date hier soir, après une longue journée de confrontation et d'explication au palais de la présidence, le président Conté a limogé ses deux plus proches collaborateurs. D'abord, le directeur du protocole d'État, Idrissa Thiam, pour faute lourde. Selon des indiscrétions dans les couloirs du palais présidentiel, Thiam aurait falsifié un décret du chef de l'État. Les observateurs croient savoir que le décret qui avait élevé Sam Mamadi Souma au rang de ministre d'État n'était qu'une pure invention des proches collaborateurs du président. Pour mémoire, il faut rappeler que Souma avait été limogé vendredi de ses fonctions de ministre secrétaire général à la présidence de la République et remplacé par Alpha Ibrahim Keïra. Mais, surprise, il est rappelé dimanche par un autre décret qui le nomme ministre d'État sans même avoir rejoint son nouveau poste de directeur général de la Caisse de Sécurité Sociale. Finalement, lui aussi fait les frais de la colère du palais qui le met à la disposition du ministère de l'Emploi et de la Fonction publique pour abandon de poste. Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
La vie politique toujours, mais cette fois en Mauritanie où, disons-le tout net, c'est la débandade. L'ADIL, le parti de la majorité présidentielle, part en lambeaux. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, il nous faut d'abord revenir sur ce qu'il s'est passé il y a un mois et demi lorsqu'une trentaine de cadres du parti ont décidé de s'en aller avec à leur tête le secrétaire général, pas moins. Et aujourd'hui, c'est au tour d'une majorité de députés et de sénateurs de claquer la porte. Tous dénoncent, je cite, un processus démocratique constamment dévié de ses objectifs et devenu au fil des temps un moyen de corruption et de pillage des biens publics. Manon Rivière, vous êtes la correspondante de RFI à Nouakchott. On le voit donc, le paysage politique mauritanien est en pleine recomposition.
L'annonce officielle de cette démission collective des parlementaires était attendue depuis plusieurs jours. Elle intervient alors que les députés n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient la semaine dernière, à savoir la convocation d'une session extraordinaire du Parlement. La grande question est désormais de savoir quelle place ces démissionnaires vont-ils occuper sur la scène politique. Ils ont bien prévu de créer un nouveau parti d'ici quelques semaines, mais certains se demandent où celui-ci se situera sur l'échiquier et quels seront ses alliés. Vice-président du RFD, le grand parti d'opposition, Kan Hamidou Baba, a une vision très claire de la situation. Pour ce député, on assiste tout simplement au déclassement d'une majorité présidentielle au profit d'une majorité parlementaire émergente, ce qui lui fait dire que l'exécutif s'achemine tôt ou tard vers une cohabitation. Cohabitation concertée ou imposée, tout dépend pour Hamidou Baba de la décision du président d'user ou non de l'arme de la dissolution. La balle semble en effet dans le camp présidentiel. Pour un observateur, tout peut s'apaiser si le chef de l'État décide d'appréhender la crise actuelle comme un simple problème au sein d'un parti politique. Au contraire, poursuit cet analyste, s'il choisit la voie de l'affrontement, il lui sera de plus en plus difficile de gouverner. Manon Rivière, Nouakchott, RFI.
C'est l'époque des examens de fin d'année aux Comores, mais on apprend que les épreuves du baccalauréat et du BEPC seront reportées de 8 jours, rendez-vous donc la semaine prochaine. Alors que s'est-il passé au juste ? Eh bien là encore, il s'agit d'une des conséquences de la pénurie de carburant qui paralyse l'archipel de l'océan Indien depuis plus d'un mois maintenant. Et puis, Juliette Rangeval, il faut aussi compter avec des menaces de grève de la part des enseignants.
Plus de 6000 candidats aux examens sont concernés d'après le syndicat des enseignants. Ils gagnent une semaine de révision mais aussi une semaine de stress supplémentaire avec ce report du BEPC et du baccalauréat. Le porte-parole du gouvernement, Abdourahim Saïd Bakar, dit craindre que candidats et examinateurs ne puissent se rendre dans les salles d'examen en l'absence de transport routier. Le syndicat des enseignants dénonce la pénurie qui rythme depuis des semaines la vie des Comoriens. Mais d'après Mohamed Chaban, le secrétaire général du syndicat national des professeurs comoriens, cette situation ne doit pas cacher les autres revendications des enseignants.
Nous pensons que c'est un problème, effectivement, que à cause de la pénurie des hydrocarbures, on ait été obligé de reporter les examens. Il faut que les autorités trouvent une solution et au problème des hydrocarbures, mais il faut en même temps qu'on trouve des solutions aux revendications des enseignants.
Et faute d'obtenir des garanties sur le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire pour cette année, les enseignants menacent de ne pas surveiller les examens du baccalauréat et du BEPC quand ils auront lieu.
Une pause, 30 secondes. Météo, titre et sport, le Congo-Brazzaville et le championnat national de handball.
RFI Paris, Laurence Adou. Du 8 au 24 août, vivez sur RFI les 29e Jeux Olympiques d'été. Christophe Diremzian, Stéphane Lagarde.
Depuis 4 ans, ils rêvent de consécration lors du plus grand rendez-vous sportif de la planète. Leurs exploits, leurs émotions, leurs réactions, jour et nuit, en direct.
Sans oublier les coulisses, les grandes et les petites histoires autour des Jeux, un événement attendu par tout un peuple.
Les Jeux Olympiques d'été 2008 de Pékin en Chine, prochainement sur RFI.
RFI, toute la diversité du monde.
La carte postale météo parmi les températures que nous avons pu relever, c'est à Fès qu'il fait le plus chaud aujourd'hui, 47 degrés là-bas. 36 au Caire et à Khartoum, 35 à Niamey, 32 à Brazzaville, Conakry et Kinshasa, 31 à N'Djamena et Ouagadougou, 29 à Dakar et Nouakchott, 27 à Bamako, Bangui, Bujumbura et Yaoundé, 26 à Abidjan, Freetown et Lomé, 25 à Kigali et Libreville, 20 à Harare, 16 à Antananarive, 15 degrés à Addis Abeba et Johannesburg, coup d'œil au Maghreb, 32 à Alger, 31 à Rabat, 29 à Tunis. Les sports dans une minute, mardi 5 août, RFI, les titres.
Laurence Adou.
À 3 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, les autorités chinoises annoncent avoir arrêté 18 touristes étrangers dans le Xinjiang. C'est dans cette région du nord-ouest qu'un attentat a fait 16 morts parmi les policiers hier. La sécurité s'est fortement renforcée ces dernières heures. Le régime communiste affirme que les terroristes veulent mener une guerre violente contre les JO. Et c'est dans ce contexte que George Bush arrive en Asie avant d'assister aux Jeux. Le président américain est une dernière fois en Corée du Sud. Il a été accueilli par deux manifestations. L'une pro-gouvernementale et pro-américaine, l'autre plus classique, hostile à la reprise de l'importation du bœuf américain. Ils ont été transportés à bord de bus blindés, escortés par des soldats israéliens. 90 membres du Fatah sont arrivés en Cisjordanie, dans la ville de Jéricho. Ils avaient fui Gaza et les forces du Hamas après les combats du week-end. Les Russes disent adieu à Alexandre Solzhenitsyn. Le corps de l'écrivain russe est exposé à l'Académie des sciences de Moscou avant son enterrement demain. En France, Marina Petrella va peut-être retrouver la liberté en fin de journée. Le parquet de la Cour d'appel de Versailles s'est prononcé pour la levée de sa détention. L'ancienne activiste des Brigades Rouges italiennes est malade et soignée pour grave dépression.
Afrique Sport vous est proposé par Western Union. Transfert d'argent rapide et sûr dans le monde entier.
Les sports, c'est avec vous, Laura Martel. À la une aujourd'hui, le Congo-Brazzaville où se tient en ce moment le championnat national de handball.
C'est la ville de Pointe-Noire, dans le sud-ouest du pays, qui accueille les handballeurs congolais. Hier, on jouait la 3e journée du championnat avec les derniers matchs des tours préliminaires. Chez les hommes comme chez les dames, on connaît donc désormais les équipes qualifiées pour la phase finale. À Brazzaville, Ghislain Joseph Gabiot.
Le verdict du tour préliminaire à la fin de la 3e journée donne 6 équipes hommes et 6 équipes dames pour disputer les matchs de poule principales. Notons en passant que la Sanga a finalement déclaré forfait. La compétition ne se joue désormais qu'entre Brazzaville et Pointe-Noire. La ville haute a finalement présenté 6 équipes en hommes pour préserver l'effectif des 9 formations qualifiées pour les nationaux. Le fait marquant des préliminaires est l'élimination de la championne en titre chez les dames, le CARA. Pas surprenant, les Noirs et Rouges ayant terminé le championnat brazzavillois après le podium. Chez les dames, Brazzaville qualifie 4 équipes, Abosport, Interclub, AS Étoile Lumière et Étoile du Congo. Pointe-Noire sera représentée par Patronage et Tietje Sport dans le tour principal. Pointe-Noire prend sa revanche chez les hommes cependant, puisque 4 de ses équipes, Munisport 1 et 2, Patronage et Amical, disputeront les places des demi-finales contre Étoile du Congo, le tenant du titre, et l'Interclub de Brazzaville. Les qualifiés du dernier tour se reposent ce mardi pour reprendre la compétition mercredi matin. Le championnat ne fera cependant pas relâche ce mardi puisque les matchs de classement sont programmés. Ghislain Joseph Gabiot, Brazzaville, RFI.
On reste au Congo avec l'inquiétude des karatékas qui pourraient bien rater le championnat d'Afrique organisé au Bénin. La délégation congolaise de karaté devait quitter Brazzaville hier pour rejoindre Cotonou. Mais pour des problèmes de transport, son départ a été retardé. En fait, le championnat d'Afrique proprement dit ne commence que demain. Mais les karatékas congolais ratent aujourd'hui un stage technique primordial pour leur préparation. La délégation espère pouvoir rallier Cotonou demain, juste à temps pour le début de la compétition, mais rien n'est sûr. Ce déplacement coïncide en effet avec le départ d'une autre délégation congolaise. 2016, celle des Jeux Olympiques, ce qui explique sans doute ses problèmes logistiques. D'où l'inquiétude des karatékas congolais, qui figurent pourtant parmi les meilleurs d'Afrique centrale et ne sont plus rentrés bredouille des championnats d'Afrique depuis une vingtaine d'années. On termine par un mot de football avec le point sur les transferts. L'attaquant gambien Omar Koroma, 18 ans seulement, a tapé dans l'œil des Anglais de Portsmouth. Ce club de première division a signé pour 2 ans avec Koroma. Le gambien sera cependant prêté 1 an à Norwich, un club de deuxième division, pour s'habituer au championnat anglais. Le Guinéen Souleymane Youla quitte lui le club français de Lille. Il a rejeté plusieurs offres de clubs de Ligue 2 pour rejoindre l'Esquisse et e-sport, tout juste promu en première division turque. Son compatriote Amadou Cissé a lui signé pour 3 ans avec le Slavia Prague, champion de République tchèque.
Laura Martel.
Afrique Sport vous a été proposé par Western Union, transfert d'argent rapide et sûr dans le monde entier.
RFI Paris, merci de nous écouter, 14h51. Jacob Zuma, de nouveau devant les juges, l'ancien vice-président sud-africain, celui qui dirige l'ANC et qui devrait succéder à Thabo Mbeki à la tête du pays, est de nouveau accusé de corruption dans l'affaire d'achat d'armes à la société française Thales. Une affaire à rebondissement, puisqu'il avait été une première fois disculpé en 2007, faute de preuves, avant que le procureur ne rouvre l'affaire, à tel point que ses partisans parlent de complot orchestré par le camp Mbeki contre Jacob Zuma. Pour faire le point sur ce feuilleton politico-judiciaire, votre invité, Olivier Roger, Lisèle Lo, la journaliste et chercheure sud-africaine. Lisèle Lo, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi Jacob Zuma se retrouve-t-il poursuivi pour corruption dans l'affaire Thales, alors qu'il avait été disculpé dans cette même affaire en 2006, faute de preuves suffisantes?
Bon, en fait, c'était une décision du procureur en décembre 2007 de continuer donc à ramasser donc des preuves, des documentations, notamment en île Maurice. En fait, ce procès dure depuis des années et nous savons que la personne qui, soi-disant, était l'intermédiaire pour cette affaire de corruption, donc Shabir Sheikh, le conseiller financier de Zuma, et depuis 2005, derrière, il a été condamné pour 15 ans de prison. Donc, le fait que en 2006, on a décidé de ne plus poursuivre Zuma, c'était presque technique. Il y avait toujours la volonté du procureur et du gouvernement, peut-être à l'époque, de continuer le procès contre Jacob Zuma. Mais en
donc
fait,
le procureur, donc le procureur, si je comprends voilà. bien, a oui. décidé, malgré l'avis de la justice, de poursuivre le procès. Et qui a demandé au procureur de poursuivre ses investigations?
Selon la Constitution, le procureur est indépendant. C'est une décision indépendante. Maintenant, les spéculations, comme qui a pu faire pression, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons, vous savez que Zuma a toujours dit que ce procès est politique. Et en 2007, ça a toujours été en sein de cette grande bataille pour la présidence de l'ANC que le président Thabo Mbeki est par la suite perdu en décembre 2007. Mais
donc c'est à la suite de la prise de pouvoir par Jacob Zuma au sein de l'ANC que le procureur oui. décide de relancer l'affaire.
Oui.
Est-ce un hasard?
C'est certainement pas un hasard, non.
Alors les partisans de Zuma, justement, accusent l'entourage du président Mbeki de manipuler la justice pour écarter Jacob Zuma de la course à la présidence. Est-ce que vous pensez que le président sud-africain puisse être impliqué personnellement dans cette affaire?
Cette accusation a été souvent relevée dès le départ. Comme je dis, ça dure depuis des années. Aujourd'hui, l'ANC est divisée en 2 camps. Que le président Mbeki soit personnellement impliqué dans ce procès, nous espérons que ce n'est pas le cas. De toute façon, le président Mbeki a perdu la tête de l'ANC. Il ne peut plus devenir le président de l'Afrique du Sud. Personnellement, mon sentiment, c'est que maintenant, c'est dans la main des justices, mais il y a énormément de manipulation, y compris à travers les médias, derrière cette affaire.
On a l'impression que Thabo Mbeki et Jacob Zuma, qui étaient anciens alliés, sont devenus des ennemis.
En fait, en juin 2005, quand Zuma a été limogé par Thabo Mbeki, c'était dans une ambiance de beaucoup de tensions, beaucoup d'accusations de la part des supporters des deux camps. Depuis donc la prise de pouvoir de Zuma à la tête de l'ANC au mois de décembre, on a vu par exemple un président du conseil régional limogé par l'ANC, qui sont des proches de Mbeki dans tous les échelons de l'ANC. Les hommes de Zuma s'imposent. Et donc Mbeki certainement, ça ne lui fait pas plaisir.
Est-ce que ces affaires, est-ce que ce déballage de linge sale ne risque pas de faire éclater l'ANC, tout simplement?
En tout cas, ça crée énormément de tensions et de divisions. Et le fait que Jacob Zuma, qui est proche de l'aile gauche, disons, de l'ANC, est maintenant devenu président de l'ANC, moi, je pense qu'à ce moment-là, il y a moins de chances. Mais rien n'est impossible.
Jacob Zuma a été jugé et relaxé faute de preuves dans une affaire de viol. Aujourd'hui, il est accusé de corruption de nouveau. Est-ce que le personnage n'est pas un peu trouble?
Il est trouble. Et je pense que ça inquiète beaucoup de gens. Je pense que le procès pour viol a plus choqué parce que ça disait un peu plus de personnalité de l'homme, Jacob Zuma. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Toutes les déclarations que Zuma fait, et surtout ses supporters, s'inquiètent beaucoup de gens.
Est-ce que l'on sait ce que Nelson Mandela, qui est quand même la plus haute autorité morale et politique du continent et d'Afrique du Sud, est-ce qu'on sait ce qu'il pense de Jacob Zuma?
Non, malheureusement, on ne sait pas. On a vu ces derniers jours Mandela lors de son 90e anniversaire, main dans la main avec Mbeki d'un côté et Jacob Zuma à l'autre côté, tout en souriant. Lui-même, il ne s'est jamais exprimé clairement. Pour ou contre Jacob Zuma, non.
Merci beaucoup, Lizello.
Merci, bonne journée. Afrique Midi, suite après les infos de 15h, journal que je vous présente aujourd'hui avec Fleur Citruc. Vous saurez tout de l'actualité à la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous.
Avec Canalsat Horizon, tous les meilleurs programmes et tous les plus grands événements sportifs viennent jusqu'à vous. Assistez en direct et en intégralité aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. Toutes les épreuves et tous les records commentés par nos experts sur Canal Plus Horizon et Canal Plus Sport. Ce qui vous passionne est forcément sur Canalsat Horizon. Et pour fêter l'événement, profitez en ce moment d'une offre exceptionnelle. Offre soumise à condition, rendez-vous vite chez votre distributeur agréé.
Salut, je suis Eyum Gangé, le rédacteur en chef du magazine Planète Jeune. En couverture du nouveau numéro, le prodige du foot Nicolas Anelka. En poster, Didier Awadi et les membres du réseau Aura qui font du hip-hop engagé. Dans ce numéro, tu trouveras aussi tous les athlètes africains qui ont des chances de médailles aux Jeux Olympiques de Pékin. Et puis, notre dossier sur la vie chère en Afrique, le débat sur les vacances au village. Et si tu es fan de nouvelles technologies, tu apprendras comment on conçoit les images de synthèse. Enfin, tu retrouveras les mésaventures de Takef et les protagonistes de la bande dessinée du lycée Samba Diallo. Alors bonne lecture à tous les planétiens et faites gaffe au soleil.
En vente dans tous les kiosques.
Planète Jeune, le monde bouge.
700 francs CFA.
Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar.
Bison futé a plus de 30 ans aujourd'hui. Oh, c'est le bel âge hein, pour un bison. Mais voyons un petit peu de quel bison il s'agit. Ça semble être un animal ou plutôt un personnage imaginaire qui a été inventé pour donner de bons conseils aux automobilistes. D'abord, sur les itinéraires surchargés, eh bien, on a privilégié en période de vacances ce genre de personnage imaginaire qui va vous dire quoi faire. Partir plutôt à la fraîche, préférer les routes secondaires, tranquilles, moins fréquentées. Mais attention, Bison Futé a toujours donné des conseils de conduite également. Ne conduisez pas trop vite, gonflez bien vos pneus, levez le pied sans lever le coude, etc. Alors, pourquoi Bison et pourquoi Futé? Surnom original, débonnaire en même temps, qui bien sûr fait référence au nom des Indiens d'Amérique. On se rappelle Toro Assi, le célèbre Sitting Bull. Lui, c'est un vrai personnage, hein, un personnage historique qui nous rappelle que dans plusieurs tribus indiennes, on nommait les gens d'après des images animales et parfois psychologiques. L'imaginaire américain s'en est emparé, de façon un peu cliché d'ailleurs, et s'est amusé à camper des personnages pittoresques et enfantins. Alors on a Sourisseau malicieux, on a Mulot timide, on a Buse intrépide, ou bien Œil de lynx et Jarret de lièvre. Cela fait même partie des caricatures sous les traits desquelles les colons américains représentaient les Indiens. Même si au départ il y a quelque chose d'authentique là-dedans. Mais comme ces dénominations sont parfois tout à fait sympathiques, les organisations de loisirs pour enfants les ont reprises. Ça fait donc, comme on dit, un peu scout, hein, c'est-à-dire bien gentil, mais un peu naïf, ce sont les échos contenus dans ce genre d'expression. L'imagerie indienne n'a pas laissé que cela, d'ailleurs, comme souvenir dans la langue, il y en a d'autres. Hein. Bah, par exemple, on parle de ruse de Sioux, ou même de ruse de Sioux, en faisant sonner le X final, ça fait plus Sioux, et on sait que les Sioux, c'était une tribu indienne, qui d'ailleurs ne portait pas vraiment ce nom-là, c'est le nom qui lui avait été donné par ses ennemis, mais c'est le terme qui est resté le plus commun. On a d'autres images aussi qui font largement appel à une situation soit de guerre, soit de paix. Oh, surtout de guerre d'ailleurs, hein. La paix n'étant qu'une phase comme une autre de la situation de guerre. On parle de fumer le calumet de la paix. Calumet, c'est un vieux mot français qui dérive de chalumeau, un simple tuyau au départ, et on se souvient de ce rituel plus ou moins authentique qui consiste à faire passer une pipe dans plusieurs bouches successives comme signe d'amitié. Mais on ne fume le calumet de la paix que quand on a été en guerre auparavant. Cela équivaut à une réconciliation symbolique et à un pacte de non-agression.